This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هذا غلوبو.
From CNN Radio 7.
راديو داجا.
O Brasil quer se vingar.
Turquia, Fontoura, Slava, Россия.
Rebonsoir et bienvenue un jour dans le monde aujourd'hui au Yémen avec Eric Valmire dans la forêt amazonienne avec des soldats d'élite très particuliers. Reportage sur place d'Éric Sanson. Dominique André aura feuilleté la presse mondiale. Celle-ci fait cause commune au service de la planète aujourd'hui. 18h55, Arnaud Le Parmentier a des idées très précises pour sauver le climat. L'édito s'annonce décoiffant, aussi décoiffé d'ailleurs qu'Arnolé lui-même. Et tout de suite la Suède.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
La Suède qui votait dimanche dernier, les législatives ont porté la gauche en tête, mais l'extrême droite a fait une percée à près de 13% des voix. Ce score historique ne lui permet évidemment pas de gouverner, mais installe l'extrême droite dans une position d'arbitre de la vie politique suédoise. Aucun parti n'ayant la majorité absolue après ces législatives et aucune coalition robuste n'ayant à ce jour été mise sur pied. Bonsoir Jean-Yves Camus.
Bonsoir.
Politologue, spécialiste des nationalismes et des extrémismes en Europe. Avant d'entrer dans le détail de la situation politique suédoise, quelques mots d'abord sur ce parti d'extrême droite qui s'appelle les démocrates suédois. C'est quand même ironique comme appellation pour une formation qui compte ou comptait en tout cas dans ses rangs des néo-nazis, non ?
Ça l'était dans les années 90. Mais aujourd'hui, c'est un nom qui finalement correspond bien, en tout cas à l'image que ce mouvement tente de donner de lui-même, en évinçant systématiquement les candidats qui dérapent pendant la campagne, en expliquant que Marine Le Pen a eu raison de faire la même chose au sein du Front National français.
De dédiaboliser.
Non seulement de dédiaboliser, mais, passez-moi l'expression, de virer celles et ceux qui, à un moment donné, commettaient sur leur Facebook ou en public un certain nombre de dérapages. Donc les démocrates suédois aujourd'hui posent une question qui va bien au-delà de la Suède, c'est de savoir si jamais véritablement ils sont à l'intérieur du mainstream politique ou si ils en constituent toujours le repoussoir. Vous savez, François de Smet, dans une tribune parue ce matin dans Libération, dit le principal problème, c'est que finalement, tout système politique cherche une marge, est obligé de définir une marge, au-delà de laquelle on est hors système, hors consensus. Alors, est-ce que les démocrates suédois, comme les partis du même genre au Danemark, en Norvège, où ils siègent au gouvernement aujourd'hui, en Finlande, sont hors consensus, ou est-ce qu'il commence à rentrer dedans? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui.
Et qui n'est pas encore tranchée, mais qui est posable pour une fois.
En Norvège, elle est tranchée par la participation gouvernementale. Au Danemark, elle l'a été pendant un certain nombre d'années, parce que là aussi, le parti similaire tenait dans sa main, en quelque sorte, le gouvernement par le nombre de sièges qu'il avait au Parlement. En Suède, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un parti qui a changé profondément ses pratiques, son langage. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'euphémise pas un certain nombre de choses. Ce n'est pas devenu un parti
traditionnel,
faisant l'apologie de l'immigration et du multiculturalisme. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Qui vous a alerté sur l'existence de ce parti? Vous disiez les années 90?
Dans les années 80, déjà, celui qui a alerté sur la montée en puissance d'une extrême droite suédoise, c'est mon ami Stieg Larsson, l'auteur de Millennium, dont j'avais publié d'ailleurs dans les années 90 un certain nombre d'articles sur cette extrême droite qui a été sans doute la plus violente d'Europe. Non pas les démocrates suédois, mais un certain nombre de groupuscules encore plus extrémistes ont commis, rien que pour l'année 1999, 5 homicides contre des représentants de l'État, des syndicalistes, des militants de gauche. Et c'est en partie, à partir de cette époque-là, que les démocrates suédois ont compris aussi qu'il y avait tout de même des gens qu'il fallait évincer, un recentrage qui était à opérer, et qu'il fallait en clair...
Et marginaliser la marge de la marge, si je veux dire.
Il fallait virer les néo-nazis, très clair.
Jimmy Åkesson, le leader des démocrates suédois, 35 ans, c'est une figure charismatique, télévisuelle bien de l'époque?
C'est pas une figure charismatique, pas davantage que ses homologues norvégiens ou danois. C'est un petit peu l'homme au profil de gendre idéal, venant d'un parti démocratique, consensuel pour le coup, qui s'appelle, c'est tout un programme, les modérés, et qui les a quittés à un moment donné parce qu'il les trouvait justement trop
modérés.
trop mou. Et il est donc devenu le chef de file des démocrates suédois, un petit peu celui qui est élu par défaut à la suite d'une rivalité interne et qui, tout doucement, réussit quand même, malgré son absence de charisme, malgré le fait que ce n'est pas un grand orateur, à présenter une image lisse de cette formation.
Ce qui est important à l'époque des images et de la télévision, Jean-Yves Camus.
Ce qui est important...
On s'aperçoit que c'est quand même à chaque fois l'un des enjeux et des combats. Quelle image renvoyons-nous ?
Ce qui est important, effectivement, à l'époque de la démocratie catholique, mais ce qui est aussi très important dans un univers politique scandinave, dont, me semble-t-il, comme aux Pays-Bas d'ailleurs, l'un des défauts majeurs me paraît être l'aseptisation totale. Mmh. C'est-à-dire que subitement, quand vous énoncez quelque chose qui va contre le politiquement correct, et notamment contre la notion centrale de multiculturalisme, de Scandinavie comme modèle du droit d'asile, et bien là, subitement, vous touchez des gens qui se disent « Tiens, enfin, voilà quelque chose qui va contre le vent. »
Un mot encore pour bien voir qui sont ces démocrates suédois, Jean-Yves Camus. Un score historique aux législatives, il y a une semaine, je le disais, x2 par rapport aux précédentes législatives. Une sociologie électorale nouvelle, j'imagine.
Une carte électorale nouvelle, une sociologie électorale nouvelle. Pour la carte électorale, vous savez, c'est un petit peu comme le Front National aux élections européennes, c'est-à-dire une nationalisation du vote. Il y a toujours effectivement des terres de mission, notamment dans les zones les plus rurales de la Suède, dans les zones les plus au nord de la Suède, mais il y a incontestablement un différentiel moins grand entre les scores les plus forts et les scores les plus faibles. Donc une assise nationale qui s'étend. Et puis aussi, oui, quand on double son score, nécessairement une assise sociologique plus large, qui reste toujours quand même centrée sur le public qui est le plus réceptif aux deux moteurs de l'idéologie du parti, l'anti-multiculturalisme, et puis ce malaise du modèle suédois, donc de l'État social, de l'État qui redistribue.
Ça on va y venir.
Ça appelle énormément un certain nombre de gens dans la classe moyenne.
Parce qu'il redistribue peut-être moins bien ou différemment qu'à une certaine époque. On est en ligne avec Teresa Kuchler, que je salue. Bonsoir, vous êtes journaliste au quotidien suédois Svenska Dagbladet. J'aimerais juste savoir, dans un premier temps, comment a été perçue cette percée de l'extrême droite et si elle a suscité quand même la sidération chez vous ?
La sidération, la première fois, ils sont entrés déjà il y a 4 ans, ils ont eu entre 6 et 7% la dernière fois, donc ça a été la première bombe. Mais le discours à l'époque, il y a 4 ans, était le discours normal pour ces partis. On parlait des jeunes hommes chômeurs à la campagne, des jeunes hommes peut-être frustrés qui cherchent à culpabiliser leur situation sur quelqu'un d'autre.
Les jeunes blancs de la campagne.
Oui, mais maintenant, une deuxième fois, on arrive à 13%. Donc ce discours n'est plus valide, puisqu'il n'y a pas autant de jeunes hommes fâchés dans la campagne qui pour en faire 13%. Mmh. Donc maintenant, on cherche à voir un peu qui sont les autres qui sont approchés à cette partie. Il y a donc un analyse qui est fait dernièrement, c'est des conservateurs qui ont... Écoutez, il y a eu un discours de part du Premier ministre Fredrik Reinfeldt il y a quelques semaines, juste peu avant les élections, où il parlait des réfugiés, il parlait de la situation en Syrie et dans le nord de l'Irak. Et puis il a fait un discours en disant que les Suédois doivent rester humanitaires, ils doivent offrir leur cœur et que les Suédois doivent s'attendre à de plus de réfugiés de ces zones-là. Mmh. Et donc il a vraiment souligné que la Suède doit rester un pays très humanitaire.
Une super puissance humanitaire, pour reprendre ces mots exacts.
Peut-être ça. Et donc, ce qu'on suspecte maintenant, c'est qu'en fait, c'est des vieux conservateurs qui ont quitté le parti à cause de ce discours. Ça, c'est un des analyses qui a été fait. Parce que bon, ce n'est plus que des chômeurs dans la campagne qui autrefois votaient social-démocrate.
Alors, une question encore. Vous l'avez dit, la question des demandeurs d'asile a été sans doute l'un des éléments clés du scrutin. Est-ce que le modèle suédois, tel qu'il fait encore rêver en France, le modèle redistribué, l'État social, est-ce qu'il est en crise véritablement ? Est-ce que les Suédois le perçoivent comme tel ?
Moi, je dirais en grand, non. Je suis pas d'accord avec cette analyse parce que c'est vrai que pendant les crises, pendant les années de crise en Europe, justement, la Suède a quand même pu se tenir hors de la crise plus ou moins. Bien sûr, avec un gouvernement de droite, une alliance, une coalition de droite-centre et centre-droite, on a quand même, bien sûr, il y a eu des, ils ont coupé un peu les récompensations des chômeurs, machin, mais c'est quand même très minime, quoi. C'est aucun parti politique en Suède peut vraiment couper tout ce qui est l'état de bien-être comme il a été construit, parce que c'est une suicide politique. Moi, je dirais non. Mais je dirais que le vent politique n'est pas un vent c'est pas un vent de gauche, c'est un vent populiste de l'extrême droite. Moi, je fais pas l'analyse que ce soit qui cherche un autre modèle social. C'est un vent complètement anti-immigration, si simple.
Ouais. C'est aussi simple que ça. Merci Teresa Kuchler. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien suédois Svenska Dagbladet, un vent anti-immigration, hein, vous le disiez Jean-Yves Camus. Et ce qu'on voit, c'est que l'extrême droite, prospère dans des pays qui vont quand même très bien.
Mais, tout à fait. Mais la Norvège, encore une fois, avec sa richesse, qui est en hausse depuis les années 70, est le parfait exemple de cette possibilité qu'ont les partis nationaux populistes xénophobes à percer dans des pays qui non seulement se portent relativement très bien par rapport, par exemple, à la France, mais qui encore ont gagné de la prospérité pendant ces dernières décennies. Ceci étant, la question de l'immigration, elle renvoie quand même à celle du modèle social. Parce que les électeurs de ces formations sont certes des gens qui refuse la société multiculturelle, mais ce refus de la société multiculturelle, il a une incidence évidente sur leurs choix économiques et sociaux. L'idée centrale, c'est de dire, s'il y a moins, il faut que ça reste à nous. Voilà. S'il y a moins, il n'y a plus de place pour ce que un autre leader de la même famille en Suisse, M. Blocher, appelait le tourisme social. S'il y a moins, il faut que les prestations
moins
d'emplois. À ce moment-là, la demande est double. Elle est d'une part de conserver ce niveau de protection sociale et non pas de mener une politique ultralibérale qu'ils réduisent à néant, et d'autre part de conserver ce qui peut l'être au bénéfice des seuls nationaux, ce qui veut dire non seulement qu'il ne faut plus admettre personne, mais qu'éventuellement, certains de ces partis le prônent, il faut renvoyer ceux qui sont déjà là.
Ce qui veut dire, Jean-Yves Camus, que les acquis de la social-démocratie, à savoir l'État social, sont parfaitement compatibles avec des poussées populistes d'extrême droite.
Ce qui veut dire effectivement que la demande de davantage d'intervention de l'État dans le champ économique et social, et nous en avons ici en France l'expérience avec le tournant qu'a impulsé Marine Le Pen au Front National, sont parfaitement compatibles et sont même d'une certaine manière le moteur d'un vote populiste et nationaliste qui trouve des adeptes dont ceux qui se sentent menacés dans leur identité et dans leur capital économique la globalisation sauvage et l'Europe.
Vous n'êtes pas devin, évidemment, mais est-ce que vous pensez que l'extrême droite est sur une dynamique très durable en Europe ?
Alors, est-ce qu'on ne peut pas poser la question autrement ? Est-ce que la droite traditionnelle, le conservatisme traditionnel, le libéralisme traditionnel, ne sont pas, eux, en train de perdre l'hégémonie qu'ils ont eue sur la très grande famille des droites ? Autrement dit, est-ce qu'on ne va pas assister l'émergence d'une autre forme de droite qui va avoir le leadership et qui, précisément, serait cette famille-là ? Ça lui impose quelque chose de très important. C'est qu'elle se normalise, c'est-à-dire qu'elle réussisse à enlever toute la charge d'ostracisme que l'histoire lui a évidemment mise sur le dos après 1945, même si en Suède le problème s'est posé autrement, puisque la Suède était neutre. Mais en tout cas, cette famille peut demain devenir, en tout cas, on va dire, l'une des trois familles de la droite, avec un conservatisme traditionnel qui se cherche une nouvelle colonne vertébrale idéologique et un libéralisme, un ultralibéralisme qu'aujourd'hui plus personne ne plébiscite.
À ce stade, en tout cas en Suède, les droites sont profondément divisées. Il est hors de question pour les droites conservatrices classiques, je dis bien à ce stade, de faire alliance avec l'extrême droite.
À ce stade, et les démocrates suédois en sont très heureux, il n'y a pas d'alliance possible, il n'y a pas d'alliance souhaitée. Et la tactique, c'est précisément qu'il n'y en ait pas. Du côté des démocrates suédois, pour pouvoir encore accumuler le capital de mécontentement, pour pouvoir encore aussi accumuler cette image de parti ostracisé, et donc pour faire passer la prochaine fois, je crois qu'un des dirigeants des démocrates suédois l'a dit juste après le scrutin, le pourcentage de 13 à 20.
Autre question, mais c'est la même, posée différemment. Que parvient cette extrême droite à capter que les autres partis de droite et même de gauche ne parviennent plus, eux, à capter ?
Sans doute cette division essentielle qui est en train de se faire jour un peu partout en Europe entre, alors en France on dirait la France du haut et la France du bas, c'est-à-dire ce sentiment qu'une partie de la population peut avoir désormais, qu'on a d'un côté des processus de décision politique qui se sont énormément complexifiés et également une élite politique qui s'est à la fois rétrécie, recroquevillée et dont les décisions ne sont plus compréhensibles que par la recherche de son propre intérêt. Et ça, ça amène un certain nombre de ces mouvements, tous ces mouvements d'ailleurs, à remettre en question la démocratie représentative elle-même. Pourquoi la démocratie directe à la place de la démocratie représentative ? Eh bien, parce que, comme le disait Marine Le Pen récemment dans son discours de Fréjus, les experts, c'est le peuple. Si les experts, c'est le peuple est le seul à pouvoir déterminer ce qui est bon pour lui. Il peut parfaitement faire l'économie de ce que tous ces mouvements, ou presque, appellent la caste. La caste. Les politiques, les technocrates.
Dernière question, Jean-Yves Camus. Le désir profond de ces partis vous semble être d'accéder au pouvoir ou de bloquer des régimes parlementaires ou de bloquer la démocratie représentative ?
Définitivement d'accéder au pouvoir. L'époque où les mouvements d'extrême droite étaient encore recroquevillés sur leurs souvenirs et sur la défaite historique de 1945 est révolue. Il y aura toujours des petits groupuscules d'extrémistes pour se parer dans les oripeaux du fascisme ou du national-socialisme. Il y a même en Suède un petit parti, le Svenskarnas parti, qui est encore beaucoup plus à droite que les SD et qui a récolté 4000 voix. Mais ça, c'est négligeable. Les partis nationaux populistes aujourd'hui ont clairement en tête l'optique du pouvoir. Pourquoi en faire ? Mais pour réformer de fond en comble l'ossature de notre démocratie. C'est, comme je le disais à l'instant, la démocratie directe à la place de la démocratie représentative.
Merci Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste des nationalismes et des extrémismes en Europe. Quelque chose me dit qu'on est appelé à se revoir beaucoup et fréquemment à ce micro. Merci encore. Il est 18h33 à suivre des militaires en pleine forêt équatorienne et Éric Valmière, pardon. Le Yémen, riche jour dans le monde. Likili, I follow rivers.
Can I follow?
Merci d'écouter Likili, I Follow Rivers sur France Inter. Il est 18h36.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et je vous le disais, reportage en Équateur. Les Ivias sont des soldats d'élite de l'armée équatorienne. Ivias, ça veut dire les diables de la forêt. Ce sont des indigènes des différentes ethnies de l'Amazonie équatorienne. Ils ont une spécialité, survivre précisément dans la forêt amazonienne, c'est-à-dire dans l'un des milieux les plus hostiles au monde. Notre correspondant Éric Sanson a profité d'un stage de correspondant de guerre pour nous faire rencontrer ces soldats d'élite.
Dans la base de l'armée équatorienne de Chelmera, à 2 heures de Quito, des Ivias se sont rassemblés devant l'entrée de leur école. Certains sont nus, comme les Indiens Waurani, d'autres vêtus, selon la tradition de leur ethnie, une bienvenue peu commune. Le lieutenant-colonel Mario Corrales est le directeur de l'école des Ivias, une unité très spéciale de l'armée équatorienne.
Ivias, ça veut dire les diables de la forêt. Tous nos soldats sont des indigènes d'Amazonie qu'on choisit pour leur connaissance de la forêt et qu'on forme aux techniques militaires. Quand on est en opération, nos hommes sont ceux qui guident les patrouilles de combat, de reconnaissance, en particulier sur la frontière du Nord.
Domingo Chiquin est sergent de deuxième classe, Ivia depuis 1995. Il provient de l'ethnie Chouar, parfois appelée à tort Jivaro, les fameux réducteurs de tête.
Mes grands-pères savaient faire la tsansa. Ils me racontaient qu'ils savaient réduire la tête de leurs ennemis. Quand ils venaient tuer un de leurs fils ou une de leurs femmes, après il y avait toujours une expédition pour se venger. S'ils gagnaient, ils coupaient les têtes et revenaient pour faire la tsansa dans les grandes fêtes de la communauté.
Même si cette époque est terminée, de nombreuses ethnies amazoniennes, comme les Chouar, les Achouar, les Waurani, ont bien gagné leur réputation de guerriers. Une réputation qui a facilité leur adaptation aux techniques militaires occidentales. Lénine Vallejo, major d'artillerie, sous-directeur de l'école des Ivias.
Le soldat pour se battre dans la jungle doit être bien préparé. Entre la chaleur, la pluie, l'humidité, les conditions sont complexes. Le soldat doit être autonome, c'est-à-dire qu'il lui faut porter non seulement ses armes et ses munitions, mais également l'eau et la nourriture. Cela fait du poids et c'est compliqué de porter tout ça, d'autant que nos patrouilles de reconnaissance durent généralement 15 jours minimum.
Ayant notamment participé à la guerre du Cenepa contre le Pérou en 1995, Livia est un peu comme le légionnaire, il n'est jamais seul et peut toujours compter sur son body, comme l'explique le sergent Chiquini.
Le buddy, c'est le camarade, le meilleur ami, c'est plus qu'un frère, celui qui prend une balle pour vous. Moi, je travaille avec le mien depuis 4 ans. On cherche quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui peut nous apprendre des choses. Ça ne se trouve pas d'un coup.
Guide touristique d'un lodge de sa communauté d'Awano, Freddy Cerda a passé 8 ans chez les Iviens. Il le revendique avec fierté.
Un Ivia dans la mythologie Chouar est un démon qui vit dans la jungle. Donc un soldat Ivias, c'est un démon de la forêt. Il faut être capable et avoir envie d'être Ivias, car l'entraînement est dur et se passe pratiquement tout le temps en forêt. Pour certaines patrouilles tactiques en zone frontière, il arrive que les Ivias ne partent qu'avec leurs armes, sans nourriture. Car quand on sait où chercher, la forêt est un supermarché, il y a de quoi manger.
Sergent d'infanterie de première classe, Braulio Carvajal est instructeur de l'école, expert en survie dans la jungle. Dans un recoin isolé, au bord d'une petite rivière, il a préparé avec son body une grande exposition de fruits et de plantes. Une première leçon de sciences naturelles pour les journalistes qui s'apprêtent à passer une nuit dans la jungle, juste munis d'une toile plastique.
Les plantes médicinales poussent souvent collées aux arbres secs. Ce sont en général des lianes et des plantes aériennes. Certaines plantes sont comestibles, mais il ne faut pas se tromper. Il faut aussi savoir choisir les fruits. Certains sont comestibles, mais pas tous. Ceux que consomment, les serpents par exemple, ne le sont pas. Il faut trouver le sommet des arbres, et si vous voyez des singes, des perroquets ou d'autres animaux, eh bien c'est là que vous trouverez votre nourriture. Mes ancêtres m'ont tout appris, surtout mes grands-parents et ma mère. Nous vivions dans la jungle, donc pour nous, il était vital de savoir trouver notre nourriture, les plantes comestibles, les plantes médicinales. Mais il faut être réaliste. La connaissance de la jungle est un art qui se perd peu à peu.
Fort de leur connaissance de la forêt, de leur formation militaire, les Ivias sont des auxiliaires indispensables, selon le major Vallejo.
Je me souviens qu'en 1998, après la guerre contre le Pérou, j'étais basé à Banderas. On avait des guides Ivias et en patrouille, il fallait absolument les suivre comme leur ombre. Marcher où ils marchaient parce que sinon, on risquait de marcher sur des mines, de tomber dans des pièges. C'était très dangereux.
Exploration de cavernes, infiltration, navigation fluviale, les Ivias reçoivent également des formations spécialisées qu'ils essayent de partager avec les visiteurs de la base, journalistes et étudiants. Une activité importante pour le directeur de l'école, le lieutenant-colonel Mario Corrales.
On accueille des étudiants car il est important qu'ils connaissent un peu le monde militaire, qu'ils dissipent des idées reçues à leur retour chez eux. Les civils ne connaissent pas les sacrifices de la vie militaire. Alors après avoir passé une nuit difficile dans la jungle, cela vous donne une petite idée. Lors du conflit contre le Pérou, moi j'ai passé 15 jours en forêt avec du thon et des gâteaux salés pour survivre.
Toujours très actifs, notamment sur la frontière nord de l'Équateur, face à la guérilla des FARC, de l'ELN, des paramilitaires et des trafiquants de drogue, les Ivias ne sont pas prêts de raccrocher leurs fusils, même si ces hommes de guerre savent aussi faire la paix. Exemple, le sergent William Kiancha, qui a participé à de nombreux combats face au Pérou alors qu'il n'avait que 19 ans.
Pendant la guerre du Cenepa contre le Pérou en 1995, j'ai reçu l'ordre de miner les pistes d'approximation des troupes péruviennes. Après la guerre, j'ai réfléchi pendant une bonne semaine et j'ai demandé l'autorisation de retirer les 30 mines, ce qui me permet d'avoir sauvé quelques vies et d'être en paix avec Dieu. C'était alors des ennemis, mais ce sont d'abord des êtres humains.
Reportage dans l'Amazonie équatorienne, signé Éric Sanson, 18h43. Un jour dans le monde, partout ailleurs. Bonsoir Éric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Ce soir, le Yémen, dossier brûlant.
Et on ne peut pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir, l'offensive des Houthis d'obédience chiite, des affrontements meurtriers. Mercredi dernier, 38 personnes ont été tuées dans des combats opposant les rebelles chiites avec les salafistes d'Al-Isla, épaulés par l'armée yéménite. Mais au fil des heures, la progression des Houthis a été fulgurante. Les casernes de l'armée ont été occupées dès vendredi. D'ailleurs, une occupation d'une telle facilité que l'on se demande si l'armée n'a pas lâché le pouvoir en place. Radio et télévision investis, couvre-feu décrété, l'ONU obligée d'intervenir, un cessez-le-feu, la démission du Premier ministre, c'était hier, encore hier, un accord signé, mais une situation encore précaire.
Ouais, et une véritable poudrière, le feu couve depuis des années hein, quand même.
En fait, depuis sa réunification, si on retourne en 90, avant le Yémen du Sud était une république démocratique populaire du Yémen, pro-soviétique, qui est tombée avec le mur de Berlin et qui a fusionné avec le Nord, qui était proche des Saoudiens et indirectement des États-Unis. Donc, la République du Yémen, en 90, va vivre sous le joug d'un régime, celui d'Ali Abdallah Saleh. Et dans le nord-ouest du pays, aussitôt, une rébellion s'organise contre ce pouvoir. Ce sont les Houthis, d'obédience chiite, qui contestent le gouvernement et prennent les armes à plusieurs reprises. 6 conflits armés recensés depuis 2004. Et puis en 2011, vous connaissez la suite, les révolutions arabes. Les Yéménites font comme les Tunisiens et les Égyptiens. Niveau de vie très pauvre, ils sont dans la rue pour protester contre la misère et contre Saleh. On suivra de violentes répressions, mais les Houthis contre-attaquent et mettent en avant les revendications sociales portées par la population pour obtenir son soutien. Saleh va finalement démissionner en novembre 2011, mais un nouveau président élu en 2012 ne change rien. Abdrabo Mansour a dit les Houthis ne voient pas la différence avec l'ancien régime parce que ce sont les mêmes personnels politiques en place avec les mêmes mécanismes, monopole du pouvoir et corruption. Ils multiplient alors les manifestations, les offensives armées jusqu'à la situation de ce matin. Franck Mermier est chercheur au CNRS. Il est le co-auteur chez Cephas Kartala de Yémen, le tournant révolutionnaire.
On peut avoir une interprétation tout à fait confessionnelle du conflit en disant que c'est les sunnites contre les chiites. Ce n'est pas aussi simple.
Plus politique que religieux, en fait.
Tout à fait. C'est-à-dire que dans le contexte du Yémen et d'une nouvelle division administrative, politique du Yémen, de finalement contrôler un territoire, hein, avant tout, en mettant certes en avant une identité, mais d'abord c'est un contrôle politique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant à voir que ce mouvement houthi qui se dit donc zaydite, qui se réclame finalement de cette branche du chiisme, a pour principal allié aujourd'hui des dirigeants du mouvement sidiste, qui sont eux pas du tout zaïdites, qui sont sunnites, hein, qui sont installés au sud. Et d'ailleurs, dans l'accord qui a été signé avec les forces politiques, avec le président Hadi hier, dimanche, il est stipulé aussi que des conseillers soient nommés à la fois dans le gouvernement provenant à la fois du mouvement houssiste, mais aussi du mouvement sudiste. Donc on voit bien là que dans ces alliances politiques, le facteur confessionnel est extrêmement réduit.
L'accord signé hier, le Premier ministre a démissionné, le président a dit ne bouge pas, et d'emblée les Houthis semblent ne pas se satisfaire de cet accord de paix, la situation reste encore très confuse.
Les Houthis notamment ont pris presque toutes les casernes militaires de la capitale, ils ont notamment investi celle du général Ali Mohsen Al-Ahmar, leur principal ennemi, ils ont même pillé sa maison, etc. Donc on voit bien qu'il y a une emprise politique et militaire très forte des houthistes dans la capitale. Ils n'ont pas signé les accords concernant leur retrait militaire des régions qu'ils occupent, hein, ni lors du désarmement. En revanche, ils ont réussi à faire tomber le gouvernement, puisqu'il va y avoir un gouvernement de technocrates qui va être nommé dans les prochains jours, avec un changement de Premier ministre, mais le Premier ministre Mohamed Bazoumia a de toute façon démissionné. Et finalement, ils feront leur entrée dans le gouvernement, qui leur permettra de préparer, d'une certaine façon, l'avenir politique de leur mouvement et l'avenir du Yémen de façon générale, pour finalement contrôler un processus qui, à leurs yeux, était dirigé par leurs ennemis, c'est-à-dire notamment le parti islamiste lié aux frères musulmans, qui est leur principal ennemi au Yémen.
Ouais, donc le confessionnel est bien un alibi dans le conflit, mais il pèse quand même, hein, Eric.
Oui, il pèse dans le sens qu'il y a une crise économique, et il y a toujours une crise des valeurs quand il y a une crise économique. Et les Houthis se réclament du zaïdisme, une branche du chiisme qui n'existe qu'au Yémen, donc figure identitaire très forte. Les imams zaïdistes ont gouverné le nord du Yémen durant un millénaire, avant d'être renversés en 62 par une révolution civile à dominante sunnite. Donc de manière presque anthropologique, les Houthis veulent porter un étendard zaïdiste comme si c'était les valeurs yéménites, puisque c'est une valeur qui a été honnie. Et de fait, deux tiers de la population se réclament de cette obédience, même s'ils ne pratiquent pas et qu'ils la connaissent très mal. Et la propagande qui associe sunnites affiliés ici aux frères musulmans à des islamistes radicaux fonctionne bien. De son côté, le pouvoir yéménite incarné par le président Hadi, toujours en fonction, dénonce la main de l'Iran derrière les Houthis, voire du Hezbollah chiite libanais, allié de Téhéran. Bref, de ce jeu trouble, une seule victime, Nicolas, le peuple yéménite qui voit son faible niveau de vie décroître jour après jour.
Merci Eric Valmire. À suivre Dominique André et une énorme pile de journaux. Puis à 18h55, l'édito d'Arnaud Le Parmentier en forme de mea culpa. Écolo, Léonard Cohen sur France Inter, vous le savez, c'est une journée spéciale pour les 80 ballets du grand homme à la voix tellement rauque et sexy, comme celle d'Alain Frachon. Did I ever love you?
Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the old table?
Did I?
Was it ever over? And is it still raining back in November? The lemon trees blossom, the almond trees wither. Was I ever someone
who could love you forever?
Was it ever said? Was it?
Did I ever love you? Does it really matter? Did I ever fight you? You don't need to answer. Did I ever leave you? Was I ever able? And are we still leaning across the old table?
Leonard Cohen, Did I Ever Love You, 18h52. Dominique André, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
La Fabrique du Nouveau Monde, c'est une journée particulière pour un certain nombre de grands titres de la presse écrite mondiale.
Et oui, on a une pile de journaux ici en studio, car c'est l'Impact Journalism Day. Et c'est quoi ? Eh bien, c'est une journée pendant laquelle les grands quotidiens internationaux, dont Le Monde, donnent plus d'impact. À quoi ? Eh bien, à des initiatives positives qui sont prises par des femmes et des hommes pour que le monde aille mieux. Alors, vous connaissez bien l'expression du grand journaliste Albert Londres, porter la plume
dans la plaie.
Mais dans ce monde anxiogène, alors que les auditeurs et les lecteurs en ont marre de l'information négative, n'est-il pas de notre devoir, à nous journalistes, de parler des trains qui arrivent à l'heure et surtout des hommes et des femmes qui font tout pour que les trains arrivent à l'heure ? Alors, il y a un site qui s'appelle Spark News qui s'est donné cette priorité, mettre en lumière toutes les innovations positives qui font avancer le monde. Ils ont créé cet événement, Impact Journalism Day. L'an dernier, une vingtaine de grands quotidiens a répondu à l'appel. Et cette année, ils sont 40. Et nous, ce soir, on a décidé de parler de David Eloi, qui est rédacteur en chef d'une coopérative de presse qui publie une revue Altermonde qui raconte régulièrement des histoires de femmes et d'hommes acteurs du changement dans le monde.
C'est vrai qu'après la chute du mur de Berlin, après cette période où on avait des utopies collectives, c'était quelque part facile d'agir ou en tout cas de se projeter dans l'avenir quand on se disait « mais demain sera meilleur ». C'était le socialisme pour certains, c'était le libéralisme pour d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus totalement ça. On est en manque d'un cap clair et net. Et je pense que les gens ont effectivement besoin, encore plus aujourd'hui qu'avant, qu'on leur montre que des choses sont possibles pour améliorer l'état dans lequel se trouve le monde. Je pense qu'il y a un vrai besoin, une vraie envie, une vraie nécessité en fait à offrir ce genre d'informations. Il y a plein de gens partout dans le monde qui font plein de choses extraordinaires et ça peut paraître un peu souvent minime, local, tout petit, mais c'est dans ces germes-là que va naître la société de demain. C'est pas ce qu'on nous montre en général. Donc alors en général, on a plutôt l'impression que le monde est moche. Bon, c'est vrai que le monde n'est pas très reluisant, mais ça dépend par quel angle on le regarde. Si on ne regarde que par le prisme de ce qui va mal, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont mal. Mais en même temps, à côté de ces choses qui vont mal, il y a plein de choses qui se mettent en place et qu'il faut soutenir, qu'il faut promouvoir, qu'il faut valoriser. Et nous, Altermonde, c'est ça qu'on a envie de faire aujourd'hui. Ça peut être effectivement des mouvements de lutte en Amérique latine pour la récupération de la terre ou du logement, mais ça peut être aussi ici en France très concrètement les logiques de circuit court, les AMAP, des gens qui retissent du lien avec le monde rural. On a un rôle à jouer dans la bataille de l'opinion. Et la bataille de l'opinion, c'est faire entendre des voix dissonantes, faire entendre des solutions qui peuvent être totalement passionnantes et qui peuvent permettre d'avancer vers un monde qui soit plus juste, durable et solidaire. Enfin bon, après on prend la formule qu'on veut.
C'est juste un supplément une fois par an, Dominique ?
Est-ce qu'il faut se contenter d'un supplément ou d'une petite chronique comme la Fabrique du Monde aussi, Nicolas ?
C'est tous les jours, effectivement.
Alors, les rédacteurs en chef de ces 40 journaux vont se retrouver à Paris le 24 septembre pour se réunir tous ensemble pour essayer de réfléchir à la manière d'aller plus loin encore sur le plan éditorial.
Dominique André.
En Afghanistan, le Hamas,
point le plus
État islamique en Syrie.
On file à Tokyo.
Bonsoir Nicolas.
Bref, l'Europe a choisi de déclarer la guerre.
Alors,
aux aspirateurs.
Et c'est l'édito d'Arnaud Le Parmentier. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction du Monde. Un édito ce soir en forme de mea culpa écolo.
Oui, Nicolas, nous devons des excuses à José Bové. Nous avons moqué sa maison écologique et ses toilettes sèches dans le Larzac dans une chronique précédente. Nous avons eu tort, alors que l'ONU débat cette semaine du réchauffement climatique. Nous imaginons ces feuillets qui permettent d'éviter les déodorants sous pression de plein de produits chimiques. Mais nous l'invitons à être encore plus écolo, à troquer son réfrigérateur ultra-moderne basse consommation contre un garde-manger grillagé qui protège son excellent Roquefort. Nul n'est parfait, concède Bové, que nous avons joint par téléphone, mais c'est la meilleure manière de lutter contre le réchauffement climatique. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, mais The Economist. Notre confrère britannique a eu l'idée d'examiner quelles mesures avaient, depuis 30 ans, permis de limiter les gaz à effet de serre, ceux qui font le réchauffement climatique. Eh bien, il y en a une qui écrase toutes les autres, c'est le protocole de Montréal, qui décida en 1987 d'interdire les CFC, alors chez la radio je prononce lentement, les chlorofluorocarbures qui équipaient sprays, frigidaires et autres appareils d'air conditionné. Ils étaient responsables de la couche d'ozone et du trou en Antarctique. Alors depuis, la couche d'ozone va mieux et la disparition des CFC a permis d'économiser chaque année 5,6 milliards de tonnes d'équivalent CO2, soit plus que toutes les centrales nucléaires et tous les barrages hydrauliques installés dans le monde. C'est 200 fois plus que les énergies renouvelables en Europe, éoliennes et autres panneaux solaires subventionnés à coups de milliards. Donc les CFC ont été remplacés par des hydrofluorocarbures, de l'hydrogène plutôt que du chlore qui n'affecte pas la couche d'ozone, mais les hydrofluorocarbures sont aussi terribles pour le réchauffement climatique. Donc l'idée, c'est de supprimer à leur tour ces CFC. Alors, notre confrère The Economist allie l'utile à l'agréable, la suppression de ces produits n'a coûté que 2,4 milliards de dollars en 20 ans, soit beaucoup moins que les 20 milliards consacrés par l'Allemagne pour sa sortie du nucléaire. Donc le but, c'est lutter contre le réchauffement avec peu d'argent. The Economist a un mérite, c'est de nous forcer à penser autrement, chercher des sources d'économie de CO2 qui ne riment pas avec régression et fiscalité punitive pour faire plaisir à Ségolène Royal. Alors il s'est amusé à classer les autres causes d'économie de CO2. Alors dans l'ordre, la politique d'un enfant par couple de la Chine, moins on est nombreux, moins on pollue. Les efforts pour limiter la déforestation du Brésil ou encore la chute de l'URSS. Mais malheureusement, elle ne peut tomber qu'une fois. Tout cela ne suffira pas à limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement de la planète. Les chiffres sont alarmants. Les émissions de CO2 ont augmenté de 2,3% l'an dernier, on l'a appris hier. Et si les émissions européennes régressent, celles des États-Unis sont reparties à la hausse en 2013 après un recul contenu depuis 2008. Et ça, c'était grâce à quoi ? Les gaz de schiste. Quant à la Chine, elle émet désormais plus de gaz à effet de serre par habitant que les Européens. Donc c'est la grande différence avec le sommet de Copenhague de 2009. À l'époque, les Européens avaient été accusés d'être responsables du réchauffement climatique par les Chinois, par les Indiens, par les Africains qui leur avaient dit « ça n'est pas notre affaire, laissez-nous nous développer ». Et bien maintenant, on le voit avec la Chine, c'est l'affaire de tous.
Merci Arnaud Leparmentier et bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Le téléphone sonne à 19h20 ce soir sur...
Devinette, le retour de Nicolas Sarkozy, voilà. Même si beaucoup doutent qu'il fût jamais parti. Mais enfin, cette fois, ça y est, c'est officiel. L'ancien chef de l'État et candidat à la présidence de l'UMP a supposé que ce soit vraiment cette présidence-là qui l'intéresse. Alors, Nicolas Sarkozy, quoi de neuf ? C'est la question dont nous allons débattre ce soir avec mes invités, mais aussi avec vous. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux, sur Twitter, hashtag Telson.
Et sur franceinter.fr, le site internet de la chaîne. Merci Hélène, rendez-vous dans 20 minutes.